Merci, bonjour à tous, auditrices et auditeurs de Radio Capi, journalistes de Kinshasa et de Goma. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle conférence de presse des Nations Unies en République démocratique du Congo. À mes côtés, ici à Kinshasa, pour animer cette conférence, Joseph Mankamba, qui représente l'équipe de pays des Nations Unies, et depuis Goma, le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Serge Chabi. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, j'accueille également un invité spécial, Olivier Bert, qui est le représentant régional adjoint de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Alors que la journée de l'enfant africain a été célébrée samedi dernier, arrêtons-nous un instant sur des faits qui n'ont rien à voir avec l'enfance et que nous ne cesserons jamais de condamner. Le recrutement et l'utilisation d'enfants se poursuit en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'année, plus de 800 filles et garçons ont été séparés de groupes armés et de milices. 70% d'entre eux étaient associés aux groupes armés présents dans la province du Nord Kivu, parmi lesquels les Nyatura, Mai Mai Mazembe, MDC Rénové et les ADF. Toujours entre janvier et mai, la MONUSCO a vérifié et documenté des violations graves commises à l'encontre d'enfants. Violences sexuelles, enlèvements, meurtres et mutilations, auxquelles s'ajoutent des attaques contre des écoles et des hôpitaux, privant ainsi les enfants de l'accès à l'éducation et aux services de santé en violation du droit international. La MONUSCO, dans le cadre de son mandat, travaille de concert avec le gouvernement congolais afin de faire cesser et prévenir les violations et violences dont sont victimes les enfants. Elle offre également ses bons offices, ses conseils et son appui aux autorités congolaises en vue de promouvoir la lutte contre l'impunité. Rendons-nous désormais à Goma, où nous attend le lieutenant-colonel Serge Chabi, qui est le nouveau porte-parole militaire de la MONUSCO. Mon colonel, bonjour et bienvenue. Vous avez la parole pour nous présenter les temps forts de l'actualité de la force.
Merci Florence. Bonjour à tous. Au niveau de la force, les informations portent essentiellement sur deux points. Premièrement, nous avons les activités du général commandant la force militaire de la MONUSCO, et donc le général d'armée Elias Martin Filho. Et puis deuxièmement, nous parlerons bien entendu des déploiements et autres missions effectuées par nos unités sur le terrain. Alors, depuis sa prise de fonction en qualité de nouveau commandant de la force, le général de corps d'armée Martin Filho a entrepris une mission de prise de contact avec les unités sous son commandement. L'objectif visé par cette tournée est d'apprécier la capacité opérationnelle des troupes et de préciser de vive voix jusqu'au niveau tactique, donc les niveaux les plus bas militairement, ses directives et ses objectifs. Il a à chaque fois rappelé à chacun ses obligations et les exigences liées à l'exécution de la mission et du mandat. Toujours dans le cadre de cette tournée, le nouveau commandant de la force militaire de la MONUSCO se rendra aujourd'hui à Beni afin de rencontrer les cadres et les soldats de la brigade d'intervention de la force. En marge de cette action, il présidera cet après-midi à la cérémonie de remise de médailles aux troupes népalais, là-bas à Beni. Il faut souligner que cette médaille vient en reconnaissance aux soldats qui, de par leur action partout dans le monde, et particulièrement au sein de la MONUSCO, font des sacrifices méritoires au profit de la paix. Maintenant, sur le plan purement opérationnel, les forces se sont concentrées essentiellement dans le secteur nord ces dernières semaines. Ainsi, dans le territoire de Djougou, la force a déployé depuis le 10 mars trois unités de combat en attente, ou trois unités en attente de combat, notamment à Boulkoua, Katoto et Fataki. Ces déploiements s'inscrivent dans la dynamique de protection par projection et de déploiement préventif en appui à l'action des FRDC et visent à contribuer au processus de stabilisation en cours dans cette région. Je crois que ce processus, l'adjoint au commandant de la force s'était largement expliqué quand vous lui en avez donné l'occasion. Cette action dans la province de l'Ituri est déterminante afin de renforcer le sentiment de sécurité des populations, d'encourager le retour des déplacés et de contribuer en même temps à la protection des populations. Toujours dans le secteur nord, les forces de la MONUSCO conduisent sans relâche de multiples actions conjointes avec les forces congolaises de défense et de sécurité notamment la PMC et les FRDC. À titre d'exemple, deux SID ont été mis en place pendant la période du Ramadan à Ngité et à Ngadi, afin d'assurer aux pratiquants musulmans de cette région la quiétude nécessaire à l'observance de leur jeûne. Aucun incident n'a donc été signalé durant la période du Saint-Ramadan. Dans le reste du pays, la MONUSCO reste vigilante et continuera de maintenir la pression sur les forces négatives à travers ses différentes actions afin de réduire l'action des groupes armés. Et pour terminer, je voudrais dire que, en liaison avec les forces de sécurité congolaises, la MONUSCO continue de déployer ses moyens afin de prévenir ou d'empêcher des actes de violence ou de toute nature et de préserver la quiétude des populations. Voilà, Florence, ce qu'on peut dire au niveau de la force pour ces deux dernières semaines. Je vous remets la parole.
Merci, mon colonel. Donc, je rappelle que le nouveau porte-parole militaire de la MONUSCO s'appelle le lieutenant-colonel Serge Chabi. Retrouvons maintenant Joseph Mankamba, qui va nous présenter les actualités des agences fonds et programmes des Nations Unies.
Qui a doté la semaine dernière les laboratoires vétérinaires de Kinshasa, Lubumbashi et Goma en matériel de diagnostic. Cet appui cadre avec son projet de soutien au programme de sécurité mondiale dans la lutte contre les zoonoses et renforcement de la santé en Afrique. Le lot remis le 14 juin dernier est le deuxième et est constitué d'environ une tonne de réactifs et matériel équipement d'une valeur estimée à $65,000. À terme, ce sont trois lots d'une valeur de $800,000 qui auront été remis à ces structures. Ces programmes de la FAO, qui consiste à renforcer les capacités des laboratoires dans la surveillance des maladies, va contribuer à lutter efficacement contre cinq maladies animales prioritaires de la RDC, à savoir la grippe aviaire, la rage, Ebola, la variole du singe et la salmonellose. Il intervient au moment où le pays traverse sa 9e épidémie d'Ebola et après un épisode de grippe aviaire dans la province de l'Ituri qui a entraîné la mort de près de 35 000 canards et 20 000 poules dans les territoires d'Irumu, Djugu et Mahagi, causant entre autres un impact économique négatif sur la filière agricole du pays. Et pour terminer, retenez aussi que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a présenté le jeudi dernier le rapport national sur la cartographie et le niveau de référencement des objectifs de développement durable en RDC. Réalisé par l'Observatoire congolais du développement durable avec l'appui du PNUD, ce rapport évalue les niveaux de mise en œuvre des objectifs pour le développement durable. Ce rapport révèle que sur les 17 objectifs, la RDC enregistre une situation favorable pour trois objectifs, à savoir l'ODD 3, qui porte sur la bonne santé et le bien-être, l'ODD 4 sur l'éducation de qualité et l'ODD 5 sur l'égalité entre les sexes. Le pays connaît une situation stationnaire pour trois autres objectifs, eau propre et assainissement qui est l'ODD 6, industrie, innovation et infrastructure, l'ODD 9, ville et communauté durable, l'ODD 11. Quant aux 8 autres objectifs, ils sont en situation défavorable. Voilà tout pour aujourd'hui et merci de votre attention.
Comme annoncé en début de conférence, j'accueille aujourd'hui Olivier Baird, qui est le représentant régional adjoint du HCR. Olivier, bonjour. La Journée mondiale des réfugiés célébrée aujourd'hui revêt chaque année une importance plus grande. Le secrétaire général des Nations Unies, dans son message à cette occasion, annonce que plus de 68 millions de personnes dans le monde sont des réfugiés ou des déplacés à la suite d'un conflit ou de persécution. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, bonjour tout le monde, merci Florence. En effet, le 20 juin, c'est la journée mondiale du réfugié. C'est une occasion pour célébrer le courage des réfugiés, parce que ce n'est pas facile d'être un réfugié, d'avoir tout perdu, de se rendre dans un autre pays, mais également pour souligner la solidarité de ceux qui les accueillent. Cette journée, c'est aussi, comme l'a dit Florence, l'occasion de faire le point sur la situation des réfugiés. Alors, on l'a dit, 68 millions de personnes déracinées à la fin de 2017. Cela comprend plus que les réfugiés. Hein. Il y a dans ces populations déracinées, déplacées de force, des réfugiés, c'est-à-dire des personnes qui ont fui leur pays pour échapper au conflit ou à la persécution. Il ne s'agit pas de combattants, mais de civils. Il s'agit aussi de demandeurs d'asile et de déplacés internes. Hein. Il y en a beaucoup en République démocratique du Congo, dont on assure aussi une réponse. À l'échelle mondiale, la plupart des réfugiés, c'est important de le souligner, vivent dans des pays en développement, donc qui supportent la charge de les protéger, de les assister, en plus de leurs propres problèmes. En République démocratique du Congo, malheureusement, en raison à la situation critique dans plusieurs des pays voisins de la République, le nombre de réfugiés a augmenté. Beaucoup d'entre eux sont des personnes extrêmement vulnérables qui arrivent ici sans rien du tout. Elles ont tout laissé chez elles, leurs champs, leurs maisons, parfois aussi il y a des séparations de famille. Les raisons principales, je l'ai déjà dit, c'est la poursuite de la guerre en Centrafrique, le conflit s'enlise et ne trouve pas de réponse heureuse. Et la Centrafrique, malheureusement, a occasionné la fuite de personnes dans des zones extrêmement reculées de la République démocratique du Congo. Il est très difficile d'apporter une réponse, je pense au nord Ubangi, je pense au Bawele. Nous avons également connu pas mal d'afflux de réfugiés du Soudan du Sud. Il y a aujourd'hui plus d'un demi-million de réfugiés en République démocratique du Congo, 534 000 si j'arrondis, hein, parmi lesquels 219 000 Rwandais, 176 200 Centrafricains, 92 700 Soudanais du Sud, 45 000 Burundais. Donc ça fait beaucoup, c'est 62 000 de plus que l'année passée au même moment, dont la plupart ne vit pas dans des sites de réfugiés, mais hors site, hein, près de 398 000. Alors, le HCR ne peut que féliciter la République démocratique du Congo pour l'accueil généreux de ces réfugiés. Et lorsque je dis la République démocratique du Congo, j'entends non seulement le gouvernement, mais les populations. Avant que le HCR ne puisse rentrer dans les zones très reculées du Bawele, du Ouélé ou de l'Ituri, il y a les populations qui accueillent ces personnes. L'asile, c'est, mesdames et messieurs, un droit fondamental. Et heureusement, ce droit est respecté en République démocratique du Congo. Je l'ai dit, c'est l'occasion pour nous de remercier la population congolaise. Nous sommes toujours impressionnés lors de nos descentes sur le terrain de la bonne cohabitation entre les réfugiés et ces populations. Souvent d'ailleurs, ils parlent la même langue, ils ont des intérêts communs de par leur culture. Ils sont de part et d'autre de la frontière. L'approche du HCR, c'est de renforcer la protection des réfugiés, mais également des populations qui les accueillent. Souvent, ils vont ensemble dans les mêmes écoles, ils bénéficient des mêmes forages, des mêmes centres de santé. On ne crée pas des choses en isolation. Nous voulons que les deux communautés puissent bénéficier des infrastructures que nous réhabilitons. Dernièrement, on a fait pas mal d'expériences intéressantes avec les champs communautaires où réfugiés et populations congolaises, par exemple en Ituri, travaillent ensemble pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Bien sûr, c'est une tâche ambitieuse. Hein, quand on parle d'école, de santé, on pense aussi à d'autres agences des Nations Unies, à d'autres acteurs de développement. Et c'est l'occasion aussi, la Journée mondiale du réfugié, de rappeler à tous que nous faisons un appel aux donateurs, mais également aux acteurs de développement pour poursuivre avec nous cette approche inclusive. Je voudrais parler aussi, et je vais terminer par cela, d'un deuxième développement qui est souvent ignoré, c'est la présence de réfugiés de la République démocratique du Congo dans les pays voisins. Cette année, on a constaté beaucoup d'arrivées en Ouganda en raison du conflit qui a lieu dans le Nord Kivu et l'Ituri. Les réfugiés congolais de la RDC sont maintenant au nombre de 772 000 en Afrique au jour de mai 2018, c'est-à-dire qu'ils sont encore plus nombreux que les 534 000 réfugiés en République démocratique du Congo, principalement en Ouganda, en Tanzanie, dans d'autres pays voisins, mais aussi au Kenya et en Afrique du Sud. Nous espérons que, bien entendu, ces réfugiés pourront rentrer un jour dans leur pays, nous espérons dans un futur pas trop loin, et que nous pourrons faciliter le retour volontaire de ces réfugiés congolais ensemble, avec les autorités, en toute sécurité et dignité. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à toutes questions. Merci.
Et justement, nous allons pouvoir entamer la session des questions et des réponses.